Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, la lutte contre les violences faites aux femmes, dont c'est la journée internationale. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Dijon pour faire des annonces. On est sur place. Et puis, on sera en direct avec Marlène Schiappa à partir de midi 20. Vous appelez le 39-21 pour lui poser vos questions et pour témoigner, évidemment. On reviendra sur le chaos engendré à l'Assemblée nationale par les propositions de loi de la France insoumise, le récit d'Alexandre Chauveau. Le Black Friday, c'est aujourd'hui, avec de nouvelles règles pour lutter contre les promotions trompeuses. Baptiste Morin sera avec nous. Et puis on ira dans Europe Midi à Strasbourg retrouver Mélina Fachin pour l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg. C'est toujours un événement. La tendance météo, Anissa Dadi, avec un peu plus de soleil.
Oui, cet après-midi, on aura un petit peu moins de nuages que ce matin. Effectivement, ça va s'éclaircir, surtout sur le quart nord-ouest du pays. Au bord de la Méditerranée aussi, les conditions sont assez agréables. Il reste quelques averses sur le reste des régions et des températures, elles, toujours de saison.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
C'est un indicateur qui ne baisse pas. Pire, il progresse. Le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, 121 depuis janvier, 121 décès. D'après le collectif Nous Toutes, on sait déjà que ça sera plus que l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 1 milliard d'euros investis par l'État, c'est même la grande cause d'Emmanuel Macron. Depuis son premier mandat, le président est à Dijon aujourd'hui pour rencontrer victimes, gendarmes et magistrats. Arthur Delaborde, bonjour Arthur.
Bonjour.
L'objectif, Arthur, c'est défendre la politique du gouvernement. C'est l'objectif du déplacement du président de la République.
Oui, Emmanuel Macron vient d'arriver dans cette école où des gendarmes sont formés à recueillir des plaintes et à intervenir face aux violences conjugales. Le président va d'abord assister à une mise en situation, une simulation dans laquelle des élèves doivent prendre en charge des victimes et l'auteur de violences intrafamiliales. Au cours de ce déplacement tout à l'heure au tribunal judiciaire de Dijon, le chef de l'État va aussi échanger avec des magistrats, des travailleurs sociaux, mais aussi deux femmes victimes de violences conjugales. L'occasion de défendre son bilan puisque l'égalité homme-femme a été érigée en grande cause de ces deux quinquennat. Une visite quelque peu parasitée par l'ouverture de deux informations judiciaires portant sur le rôle des cabinets de conseil comme McKinsey dans les deux campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Et c'est d'ailleurs ici même à Dijon en mars dernier que celui qui était encore président candidat avait tenté de clore la polémique sur les dépenses du gouvernement en prestations de conseil.
Voilà, on va continuer à parler de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On sera avec Marlène Schiappa à partir de midi 20 et avec vous au 39-21, bien sûr. Séance houleuse hier soir à l'Assemblée nationale à l'occasion de la niche parlementaire de la France insoumise qui permet à un groupe, vous le savez, de fixer l'ordre du jour dans l'hémicycle. La députée insoumise Caroline Fiat présentait une proposition de loi en faveur de la réintégration des soignants non vaccinés. Et les débats ont été particulièrement agités. Donc, Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
La majorité a été accusée par la France Insoumise d'avoir fait de l'obstruction parlementaire.
Oui, parce que la France Insoumise semblait sur le point de faire adopter sa proposition de loi. Les Républicains étaient pour, la NUP et le Rassemblement National aussi. La majorité y voyait de son côté une proposition, je cite, anti-vax et complotiste. Mais après le retour en séance à 21h30 et voyant qu'une défaite se profilait, la majorité a déposé plus de 250 sous-amendements pour éviter qu'un vote n'ait lieu avant minuit et donc avant la fin de la niche. De quoi provoquer la colère d'Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée.
C'est sans doute la première fois dans la Ve République qu'un gouvernement se prête à un travail d'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de poursuivre sa mission.
La tension était très vive à l'image de cette invective lâchée par le député de Guadeloupe, Olivier Serva, à un député de la majorité.
Tu vas la fermer.
Séance suspendue et ambiance électrique jusqu'à minuit. Finalement, le vote n'aura pas lieu. La rapporteure du texte, Caroline Fiat, ne décolère pas.
Lors d'une niche parlementaire, quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu. On ne vous lâchera pas.
La députée insoumise promet donc de remettre prochainement à l'ordre du jour sa proposition de loi qu'elle sait et qu'elle estime majoritaire dans l'hémicycle.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau, tu vas la fermer. Effectivement, ce ne sont pas des invectives qu'on doit entendre à l'Assemblée nationale où on doit montrer l'exemple, normalement, même si effectivement à l'Assemblée nationale c'est parfois viril, ça chauffe. C'était le cas hier soir. Merci beaucoup Alexandre. Si vous êtes déjà passé par l'hôpital, quels souvenirs en gardez-vous ? La santé, un secteur en crise, on n'arrête pas de le dire. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Sous-effectif, salaire trop bas, démission, rien qu'en 2020, 12 000 paramédicaux ont claqué la porte. Des infirmiers, des soignants, ceux qui restent sont parfois débordés, avec un temps chronométré par patient. Heureusement, il y a aussi de belles histoires, grâce au dévouement de ces professionnels. Écoutez le récit de Philippe, un ancien patient, il a 47 ans. Il a été hospitalisé l'année dernière à cause du Covid.
J'ai été placé dans le coma pendant une dizaine de jours et j'ai passé au total ensuite 3 mois à l'hôpital en service de réanimation d'abord et puis ensuite en infectiologie. Le personnel est souvent sous-effectif, donc ça en tant que malade, forcément on le ressent quand on reste longtemps au fur et à mesure des journées et des semaines. Et même si le personnel avait énormément de travail, on sentait qu'il faisait les choses quand même avec une grande humanité, quoi. Par exemple, moi en réanimation, après mon réveil, j'étais complètement paranoïaque, paniqué, j'avais peur qu'on me tue, enfin des hallucinations et des peurs vraiment extrêmes. Et je me souviens d'une infirmière qui s'est accroupie à côté de mon lit, qui m'a tenu la main, qui m'a parlé pendant, je ne sais pas, plusieurs dizaines de minutes pour me rassurer, parce qu'elle voyait que je pleurais, que je tremblais l'essentiel de la journée. J'ai bénéficié d'une prise en charge de très bonne qualité médicalement, mais aussi très humaine, quoi.
Voilà, témoignage de Philippe, ancien malade du Covid, qui répondait à Delphine Schiltz pour Europe 1. Un hommage qui rappelle l'essentiel, la qualité des soins dispensés en France dans les hôpitaux publics et à moindre coût. Les Français profitent d'ailleurs de l'une des meilleures couvertures sociales au monde. D'ailleurs, Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour à tous.
Spécialiste des questions de santé, bien sûr. Combien coûte un accouchement, une cheville cassée? Yasmina, vous avez pris l'exemple, pour bien comprendre, d'une famille couverte par une mutuelle.
Oui, comme 96% des Français. Alors commençons avec un accouchement par voie basse, sans complications. Dans un hôpital public, cela ne coûte rien à la maman. En revanche, la facture réelle s'élève à 2 862 euros pour la surveillance et l'occupation d'un lit pendant 5 jours. Disons que cet enfant grandit et apprend à faire du roller et se déchire les ligaments d'une cheville. Aux urgences, un forfait de passage s'applique, 27 euros. Il faut ensuite y ajouter la radio et ou le scanner, la consultation avec un médecin et enfin la pose du plâtre. Au total, ce petit bobo aura coûté plus de 120 euros, mais rien aux parents. Autre exemple, si le père est opéré en urgence d'une appendicite, l'hospitalisation s'élève à 2500 euros. Mais toujours rien à régler pour le patient. Plus tard, la mère doit se soigner pour un cancer du sein. Pour une chimiothérapie de 25 séances, l'hôpital facturera 10 462 euros. Grâce à l'hôpital public, la famille aura reçu des soins d'une valeur de près de 16 000 euros pour lesquels elle n'aura rien déboursé.
Yasmina Katou, 2 800 euros un accouchement, une chimiothérapie 25 séances aux alentours de 10 000 euros, 10 420 je crois que
absolument.
C'est le chiffre que vous nous avez donné, une appendicite 2 500 euros et à chaque fois zéro pour le patient.
Après, aucun reste à charge.
Après, effectivement, la sécurité sociale, c'est financé par les taxes et les voilà, c'est, rien n'est gratuit évidemment, mais tout le monde est... On est tous égaux face à la
santé
en France.
Quand on rentre à l'hôpital, on a des chances de ne rien payer à la sortie pour des soins de qualité, absolument.
Voilà, et on va continuer à en parler avec le docteur Franck De Vulder, qui est président de la Confédération des syndicats médicaux français, et avec Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers. Il sera avec nous aux alentours de 12h40, 12h45, et avec vous, bien sûr, au 39-21. Il est midi 9, restez bien avec nous dans un instant. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1, qui va nous dévoiler les nouvelles règles pour éviter les arnaques lors du Black Friday. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Un nom trompeur et des promotions qui peuvent l'être aussi, le Black Friday ou Vendredi Noir, vaste opération commerciale de promotion importée des États-Unis ces dernières années. Ça a lieu aujourd'hui. On a pris le pli en France, on peut le dire, on en parle face à la hausse des prix. Nombreux sont ceux qui veulent profiter des réductions, c'est bien normal. Mais pour la première fois cette année, les promotions sont soumises à une nouvelle règle européenne. Ça, c'est très intéressant. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Service économie d'Europe 1, bien sûr. sûr. Baptiste, objectif de cette nouvelle règle, lutter contre les réductions excessives ou trompeuses.
Exactement. Son nom, Omnibus. Avec cette directive, l'Europe s'attaque à une pratique répandue, celle qui consiste pour les commerçants à retenir comme base de calcul pour leur promotion le prix le plus élevé qu'ils ont appliqué par le passé sur le produit ou le prix de vente conseillé par le fabricant, de façon à gonfler artificiellement les réductions le jour J. Et désormais, les commerçants doivent retenir le prix le plus bas qu'ils ont appliqué sur le produit dans le mois qui précède le Black Friday. Très concrètement, prenons un produit qui est vendu en promotion à 90 euros alors qu'il a été vendu entre 100 et 130 dans les 30 jours avant le Black Friday. Eh bien, le prix barré qui est affiché quand vous achetez le produit, il doit être de 100 euros et la réduction qui est affichée elle aussi pour essayer de vous faire venir et de vous faire acheter, elle doit être calculée sur ce prix-là. En l'occurrence, ce serait moins 10%. Mais pour Thomas Graffanino, qui est expert du commerce chez Sia Partners, les clients ont encore des pièges à éviter.
Ça permet de gagner en lisibilité et ça permet de protéger le consommateur par rapport à ces fausses promotions. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir d'autres mécanismes de prix qui ne vont pas forcément être les plus bas sur le marché ou de prix qui vont être les plus compétitifs.
Tout de même, si la directive Omnibus est bien appliquée cette année par les commerçants, ce Black Friday 2022 devrait se distinguer par des promotions plus raisonnables.
Merci beaucoup Baptiste Morin. Voilà, c'est très concret. Espérons que ça soit appliqué.
Ce serait bien.
Ça va être surveillé, j'imagine.
Et ça va être surveillé. Et Bercy a lancé une plateforme pour aussi qu'on puisse alerter s'il y a des dérives dans les magasins ou sur Internet.
Voilà, qu'on ait confiance dans les commerçants, même en ligne, bien sûr. Merci beaucoup, Baptiste. Dans quelques heures, ça sera le coup d'envoi du marché de Noël à Strasbourg. Il existe, ce marché de Noël, depuis, écoutez bien, 450 ans. Il brasse chaque année 2 millions de visiteurs. La magie de Noël est donc de retour. Et la capitale alsacienne va revêtir, comme on dit, son manteau de lumière pour célébrer les fêtes de fin d'année. Mélina Fachin, en direct avec nous. Bonjour Mélina.
Bonjour Romain. Bonjour à tous.
Les commerçants sont déjà prêts, ils ouvrent leur chalet, on entend travailler derrière vous. Mm-hmm. Ça va ouvrir dans un peu moins de 2 heures.
Oui, c'est ça, les 300 cabanons et quelques vont ouvrir à 14h. Sassy va bientôt commencer à vendre ses crêpes, ses bretzels, son vin chaud. Et après 2 années très perturbées par le Covid, il est confiant.
On a hâte d'ouvrir. J'espère pas me tromper, mais je le sens très bien. C'est la première année où, pour l'instant, on ouvre dans un esprit de marché de Noël classique. Pas de restrictions, pas de... Voilà, le seul bémol qu'on a un petit peu, c'est les horaires.
Les horaires qui ont été raccourcis cette année pour faire des économies d'énergie. Le marché fermera tous les soirs à 20h, y compris les week-ends. Et pour la première fois, les radiateurs sont interdits dans les petits chalets. Jacques, qui va vendre des vêtements en laine pour enfants, comprend cette décision.
On se couvre un petit peu plus, on met des semelles chaudes. On boit du vin chaud, comme dit mon collègue, éventuellement, et ça se passera très bien. En plus, on a fait maintenant des économies au niveau des spots. On a des spots LED qui consomment moins. Voilà, tout le monde y a mis un peu du sien.
La ville aussi va réduire ses décorations lumineuses de 20%. Mais le grand sapin en place Kléber, 30 mètres de haut, est bien là. Il s'illuminera ce soir à 19h, donnant ainsi le coup d'envoi de cette édition 2022 du Chris Kindlesmerik, le marché de Noël.
Merci beaucoup, Mélina. Disons que pas de radiateur, il va y avoir froid. Hein, double... Ouais. Il faut mettre double paire de chaussettes, pas trop de vin chaud, hein, on entendait le commerçant qui disait.
Exactement, non, avec modération, mais des chaussettes, des semelles, des bonnets, voilà, on va y arriver.
On va y arriver. Merci beaucoup Mélina Fachin. Allez, le sport, à Doha, il fait un peu plus chaud qu'à Strasbourg, Doha au Qatar. 4 matchs au programme aujourd'hui. En ce moment, eh bien, il y a le Pays de Galles qui affronte l'Iran, 0-0. À 14h, le Qatar sera opposé au Sénégal. Et puis à 17h, l'affiche entre les Pays-Bas et l'Équateur avant de terminer avec le match Angleterre-États-Unis à 20h à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, bien sûr. Alors comme chaque midi, dans Europe Midi, en exclusivité pour Europe, le regard de notre consultante exceptionnelle, la capitaine de l'équipe de France de foot, Wendy Renard. Wendy qui aborde le cas très particulier du jour qui précède un très grand match, comme ce France-Danemark demain, sommet du groupe D qui déterminera sans doute la première place et la suite de la compétition. Est-ce qu'on a déjà la tête au lendemain dans ces cas-là, quand on fait partie d'une équipe comme l'équipe de France? Écoutez la réponse de Wendy Renard.
Ça sert à rien de jouer le match avant, parce que on peut déjouer le jour J, donc ils sont tout simplement concentrés, lucides, et puis ils attendent ce deuxième match pour pouvoir, comme j'ai dit, enchaîner. Et un match qui sera aussi complètement différent par rapport au premier, où je pense qu'il y aura une équipe du Danemark qui va sûrement avoir un peu la possession aussi par moment, donc plus ouvert. Les dernières rencontres contre eux ont été aussi difficiles, donc les Bleus, ils savent à quoi s'attendre.
Voilà Wendy Renard qui a par ailleurs joué hier et gagné avec l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions 3-0 à Zurich. L'OL qui se replace dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Voilà, Europe 1, radio officielle du Mondial, ça vous l'avez compris. Tous les jours, Wendy Renard dans Europe Midi et dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Et puis à 20h, 20h, 23h, Europe 1 Sport spécial Coupe du Monde, bien sûr, dès 19h15 même. Et puis pour votre week-end, et oui on est vendredi, on vous a sélectionné, écoutez bien, deux podcasts Europe 1. Tout d'abord, Christophe Ondelat nous raconte l'histoire d'Olympe. Elle est atteinte d'une maladie orpheline qui n'a pas de remède. C'est une fille de la Lune et sa maladie la rend intolérante au soleil et à la lumière. Elle doit se couvrir quand elle sort. Un témoignage très très fort à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute. Vous connaissez le système bien sûr et sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Et puis un podcast Europe 1 Studio, Virginie Giraud vous emmène au cœur de l'histoire de Simone Veil, rescapée des camps de concentration, devenue ensuite l'une des plus grandes figures politiques françaises. Tout au long de sa vie, Simone Veil s'est battue pour créer un monde plus juste. Découvrez son histoire en 4 épisodes disponibles sur toutes vos plateformes d'écoute. C'est pareil, vous allez sur votre plateforme d'écoute ou sur le site d'Europe1.fr. La bourse à présent, Claire Lemaître de boursier.com. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Quelle est la tendance à Paris?
C'est très hésitant. Le CAC 40 a réussi à accrocher hier les 6700 points. Là, on gagne un petit 0,1%, 6715 points. Et il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'actualité aujourd'hui en bourse. La séance sera écourtée à Wall Street avec le Black Friday. Donc, on manque un peu de catalyseur. Du côté des valeurs, ça monte pour OVH. La Banque européenne d'investissement a accordé aux spécialistes du cloud un financement de 200 millions d'euros pour ses investissements en Europe. Plus 2% donc pour OVH. C'est très hésitant sur tous les marchés en Europe. Londres gagne 0,3%. Francfort est stable. Madrid aussi est stable. Et le CAC 40 avance donc d'un petit 0,1%, 6715 points ce midi.
Merci Claire. Claire Lemaître de boursier.com. La météo, Anissa Haddadi. Bonne nouvelle, le ciel s'éclaircit cet après-midi.
Et les plus chanceux, Romain, ceux qui auront droit à leur dose de vitamine D cet après-midi, se trouvent sur le nord-ouest du pays. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, région parisienne, centre, Val-de-Loire et Pays de la Loire. Vous allez avoir droit à de belles éclaircies. C'est sympa aussi au bord de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane qui sera active. En Corse, c'est un petit peu couvert avec un risque d'averse. Et puis, on a toujours ce cordon pluvieux entre les Pyrénées et l'Alsace avec quelques averses moins fréquentes que ce matin et toujours de la neige sur les reliefs. Les températures, elles sont de saison, 9 à Saint-Étienne, 12 à Paris et Lille, 14 à Biarritz, 18 à Nice et Marseille et 20 pour Toulon. La semaine prochaine, le temps sera plus calme, mais bien plus froid.
Anissa Haddadi, merci beaucoup Anissa. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On accueille Marlène Schiappa dans un instant. On va parler notamment de son documentaire, événement qui sera diffusé ce soir sur C8 à 21h20. Restez bien avec nous sur Europe 1. A tout de suite.